Chapitre 8. Lambeau de sérénité. Les deux amies n'avaient aucun moyen d'échapper à leur cours particulier avec les sœurs. À dire vrai, elles ne le désiraient pas. Mais les longues heures passées à écrire les épuisaient, ne leur laissant comme temps libre que la soirée, après le dîner. Les acceptées qui continuaient à sortir étaient soumises au même régime, et elles râlaient d'abondance dès que les Aes Sedai avaient le dos tourné. Par bonheur, le cursus de leçons particulières n'était pas complet. Agacées de devoir donner aux novices des cours qu'auraient dû leur dispenser les acceptés, bon nombre de sœurs refusaient d'assurer leurs autres heures de classe. En fait, la grogne gagnait en intensité parmi les Aes Sedai. Selon certaines rumeurs, la chère Dame Irline avait reçu plusieurs pétitions qui exigeaient le retour à la normale. Bien entendu, Tamra n'en avait pas tenu compte. Dans cette tourmente, les sœurs jouaient encore la mascarade de l'impassibilité. Mais leur sérénité partait en lambeaux. Parfois, les plus modérées d'entre elles gratifiaient les novices et les acceptaient de regards assassins qui leur glaçaient les sangs. Dès qu'on était au cœur de l'hiver, la tour blanche faisait une poussée de fièvre. Alors que Siouan, fidèle à ses habitudes, restait muette sur ce qu'elle vivait, Moiraine s'avisa très vite qu'elle éveillait un courroux particulièrement vif chez presque toutes les Aes Sedai. La raison était simple. Contrairement aux autres acceptés, les deux amies auraient dû dispenser des cours aux novices et prendre les leurs à des heures plus raisonnables. En conséquence, quelques sœurs, qui ne rechignaient pas à veiller tard pour les autres acceptées, se déclarèrent trop occupées lorsque Siouan ou Moiraine tentèrent de convenir d'un horaire. Sur bien des points, les Aes Sedai pouvaient être aussi mesquines que n'importe qui, une constatation que les acceptés se gardaient cependant de faire à voix haute. Moiraine espérait que ces petites querelles cesseraient très vite. Parfois, de simples désaccords avaient le génie de se transformer en inimitié qui durait toute une vie. Mais que pouvait-elle faire pour éviter ça? Présenter ses plus plates excuses aux sœurs les plus remontées? Implorer leur pardon et croiser les doigts? En tout état de cause, elle ne leur remettrait pas les listes. Toutes les Aes Sedai ne battirent pas froid aux deux copistes. Keren consacra du temps à Moiraine pour réviser les connaissances, peu étendues en réalité, des historiens sur l'empire d'Arthur el de Faucon. Meilin l'interrogea sur l'antique écrivain Willem de Manachès, insistant en particulier sur l'influence qu'il avait exercée sur Shivena Kayensi, une des philosophes majeurs du Saldaïa. Aïcha vint la bombarder de questions sur les différences entre les corpus juridiques du Chienard et de la Madicia. Désormais, c'était des cours de ce genre que suivait Moiraine. Tout ce que les sœurs pouvaient lui enseigner sur le pouvoir et tout ce qu'elle était à même d'assimiler, deux notions qui n'étaient pas nécessairement équivalentes, avait été traité durant les mois précédents. Si elle avait osé, Moiraine aurait demandé aux Aes Sedai choisis par Tamra pourquoi elles étaient toujours confinées dans la tour. N'aurait-elle pas mieux fait de sillonner les environs en quête des enfants recensés sur la liste? Si elle voulait être honnête, la jeune femme connaissait la réponse. C'était la seule qui parut logique. Toutes les autres n'avaient aucun sens. Les enquêtrices n'étaient pas pressées. Arracher l'enfant à sa mère si tôt aurait été cruel, il fallait l'admettre. Du coup, elle pensait avoir des années pour le trouver. Une illusion dangereuse, selon Moiraine. Si elles avaient vu les listes sur lesquelles manquaient tant d'informations essentielles, comme un nom de village d'origine, leur confiance se serait effritée. Cela dit, elles attendaient peut-être la fin du recensement. Quoi qu'il en soit, Moiraine espérait que d'autres sœurs seraient chargées de la quête. Mais on pouvait avoir des doutes, d'autant plus que Valera et Ludis, l'information venant de Siouan, n'avaient pas quitté la tour non plus. Pas d'urgence? La jeune femme en bouillait de colère. D'après les dernières nouvelles, les combats continuaient à plusieurs lieux au sud-est. Mais il s'agissait simplement d'escarmouches, même si quelques-unes se révélaient très sanglantes. D'après ce qu'on murmurait, aucun commandant de la coalition n'avait envie d'accentuer la pression sur des ennemis dangereux, certes, mais surtout occupés à se replier. Ce dernier point ayant été confirmé par des Aes Sedai, on pouvait le tenir pour acquis. On disait aussi que beaucoup de Mourandiens et d'Altariens avaient déjà plié bagages et repris le chemin de chez eux. Les forces de la Madicia et du Géaldan prévoyaient de les imiter, affirmait-on de plus en plus souvent. Des troubles s'étant produits le long de la flétrissure, tous les soldats des terres frontalières étaient donnés sur le départ. Mais les Aes Sedai n'accordaient aucune attention aux rumeurs et aux ragots. Moiraine tentait de sensibiliser ses formatrices à la situation, mais sans grand succès.
« Les rumeurs sont irrationnelles et n'ont pas de place ici, mon enfant, »
lui dit Meilin, son regard d'une parfaite sérénité au-dessus de la tasse d'infusion qu'elle venait de porter à ses lèvres.
« Très bien. Lorsque Shivena affirme « la réalité, c'est l'illusion », en quoi s'inspire-t-elle de Willim et dans quelle mesure fait-elle montre d'originalité ?»
Quand elle avait essayé auprès de Keren, Moiraine avait là aussi fait chou blanc.
Si tu veux parler de rumeurs, choisissons celle qui concerne Aile de Faucon.
Lorsqu'elle enseignait, Keren avait l'habitude de jouer avec un de ses couteaux, s'en servant comme d'une règle. Ce soir-là, elle avait sélectionné une arme très ancienne, au manche de bois craquelé.
De toute façon, une bonne moitié de ce que nous savons sur lui est un ramassis de rumeurs.
Aïcha, elle, avait soupiré puis levé un index boudiné, ses yeux marrons si bienveillants soudain très durs. Avec son visage très ordinaire, elle aurait pu passer pour l'humble épouse d'un fermier. N'était la montagne de bijoux qu'elle portait. Des boucles d'oreilles à grosses pierres, des colliers d'émeraudes et de rubis. Une femme brillante au sens littéral du terme, sauf en ce qui concernait ses mains, où ne luisait que la bague au serpent.
Si tu ne peux pas te concentrer sur notre sujet, une visite dans le bureau de Méréane s'impose peut-être. Inutile de secouer la tête. Je savais que ça ne t'enthousiasmerait pas.
Ouvrir les yeux des Aes Sedai était tout bonnement impossible. Moiraine devait donc se résigner à attendre et à s'entraîner en évitant de grincer des dents. Si elle passait bientôt l'épreuve, les choses changeraient. Pour commencer, elle sortirait de la tour et se lancerait à la recherche du bébé à la vitesse d'un cheval au galop. Pour cela, cependant, elle devrait avoir tous les noms.
C'est un cercle vicieux, cette affaire.
Dans les quartiers des acceptés, les rumeurs prospéraient comme jamais. Mais contrairement à d'habitude, elles ne concernaient pas les querelles de personnes, toujours croustillantes à souhait, ni le comportement prétendument scandaleux d'une sœur verte avec son champion. Les récits que se répétaient les acceptés venaient de guerriers et de civils qui vivaient dans les champs. Ils parlaient de héros morts au combat et de braves plus chanceux qui avaient survécu. Les survivants fascinaient encore plus les jeunes femmes que les défenseurs de la liberté tombés au champ d'honneur. Car pour s'en sortir, un soldat devait avoir en gros les qualités requises pour devenir un champion. Sauf lorsqu'elles avaient choisi l'âge à rouge, les acceptés passaient une bonne partie de leur temps à discuter de ce sujet. Des camps entiers étaient démantelés, disait-on aussi. Parce que les soldats se lançaient à la poursuite des aïels, ou simplement parce qu'ils rentraient chez eux. Quoi qu'il en soit, de petits groupes restaient en arrière pour que le nom de toutes les femmes méritant une prime soit enregistré par les émissaires de la Tour Blanche. Cela limitait les risques que la mère du dragon s'en aille sans jamais s'être fait connaître. Mais si elle avait été enregistrée juste avant de partir, serait-elle facile à retrouver? La démangeaison devenait chaque jour un peu plus insupportable. Un soir, Elide Abaraim raconta à Moiraine et Siouan une histoire qu'elle tenait d'une Aes Sedai. Une histoire, insista-t-elle, et pas une rumeur.
J'ai entendu Adelorna la raconter à Shemaen,
précisa-t-elle en souriant. Elide souriait chaque fois qu'elle s'apercevait dans un miroir, et quand elle souriait, on eût immanquablement dit qu'elle contemplait son reflet. Une brise vespérale faisait onduler la somptueuse crinière blonde qui composait comme une aura permanente à son visage parfait. Les yeux tels des saphirs, la peau d'albâtre, Elide n'avait qu'un défaut, en tout cas selon Moiraine, une poitrine un peu trop généreuse. À part ça, elle était grande et merveilleusement bien bâtie. Comme de juste, les hommes tombaient à genoux sur son chemin. Les novices crevaient d'envie en la voyant, et on trouvait même parmi les acceptés une majorité d'idiotes qui la jalousaient activement.
Selon Adelorna, Jitara a prédit que Tarmon Gaidon aurait lieu durant l'existence de sœurs qui arpentent déjà ce monde. J'en boude d'impatience. Au cas où vous l'ignoreriez, je me destine à l'âge à vert.
Dans la tour, on n'aurait pas trouvé une acceptée qui ne soit pas au courant.
Quand je marcherai vers l'ultime bataille, je veux avoir 6 champions à mes côtés.
Encore une information de notoriété publique. Elide ne faisait jamais mystère de ses projets, et elle parvenait toujours à les réaliser. En un sens, ce n'était pas juste.
Si je comprends bien,
souffla Moiraine quand Elide se fut éloignée pour se joindre au groupe de filles en route vers le réfectoire.
Jitara a eu d'autres visions que la dernière. Au moins une, en tout cas, et très probablement davantage.
Nous savons déjà que l'ultime bataille approche,
murmura Siouan. Elle se tut quand Saren et Catherine la dépassèrent, en se lamentant sur la fatigue qui allait sûrement leur couper encore l'appétit. Dès qu'elles furent assez loin, elle reprit.
Si Jitara a fait 10 prédictions, voire 100, qu'est-ce que ça peut nous ficher?
Siouan, ne t'as-tu jamais demandé comment Tamra pouvait être sûr que l'enfant naîtrait bien ces jours-ci? De mon point de vue, une de ses prédictions au moins doit le concerner. En plus de ce que nous avons entendu, un autre indice doit prouver à la chair d'Amerlin que le moment est bienvenu.
Moiraine fronça les sourcils, soudain pensive.
Sais-tu comment fonctionnait le talent de prédiction de Jitara?
Ce don était différent chez toutes les femmes, y compris dans la façon dont elles formulaient leurs augures.
À entendre Jitara, on aurait pu croire que l'enfant était en train de naître. Au fond, c'est peut-être le choc dû à cet événement qui l'a tué.
La routisse comme elle l'entend,
rappela Siouan, sombre et perplexe.
Puis elle s'ébroua. Oh, par la lumière, allons dîner.
Il nous reste encore ton entraînement. »
Les deux amis avaient repris cette routine-là, au moins le soir, et Mireille continuait à les aider, quand elle n'était pas fatiguée au point d'aller se coucher une fois son repas avalé, voire sans manger certains soirs. Presque toutes les acceptées optant pour l'une ou l'autre possibilité, les galeries avaient tendance à être désertes et silencieuses bien avant l'extinction des lampes. La reprise des exercices ne se passa pas très bien pour Moiraine, surtout le premier soir, car Elaïda fit irruption dans sa chambre pendant qu'elle subissait les tourments de Siouan et de Mireille. Pour que la victime, assise sur le petit tapis, n'ait pas trop froid, la cheminée était poussée au maximum de son tirage. Ça ne suffisait pas à rendre l'atmosphère douillette, mais au moins, on ne gelait plus.
« Ravi de voir que ton travail ne te sert pas d'excuse pour négliger ta préparation, » dit la sœur rouge en entrant.
À en juger par son ton, elle était surprise plutôt que ravie, et sa façon de prononcer le mot « travail » exprimait un profond mépris. Bien entendu, la robe d'Elaïda était agressivement rouge, et elle portait son châle comme si elle avait été en mission officielle. Venant se camper dans un coin de la pièce, face à Moiraine, elle croisa les bras et lâcha.
« Continuez, je vais vous observer. »
Les trois jeunes femmes n'eurent qu'à s'exécuter. Peut-être stimulées par la présence d'Elaïda, Siouan et Mireille firent de leur mieux, en réalité de leur pire, s'il avait été possible de formuler les choses ainsi. Elles talochèrent leur souffre-douleur, la pincèrent, simulèrent des explosions près de ses oreilles, et lui criblèrent les jambes de coups de badine imaginaire. Et tout cela, bien entendu, quand elle avait le plus besoin de sa concentration. Moiraine tenta de ne pas regarder Elaïda, mais c'était pratiquement impossible, si on considérait la position que celle-ci avait choisie. Évoluer sous le regard de la sœur rouge mit la jeune acceptée mal à l'aise, mais, en un sens, ça la stimula aussi. Se concentrant comme jamais, elle réussit à produire 61 tissages, dans un délai d'une minute, et cela en mélangeant l'air, la terre, l'eau et l'esprit. Un bel effort qui la fit transpirer à grosses gouttes. En réalité, ce n'était pas un exploit, mais il n'y avait pas de quoi rougir non plus. En d'autres occasions, elle n'était pas passée loin des 100 tissages requis, mais elle n'avait réussi que deux fois, et encore la seconde était-elle tirée par les cheveux.
« Pitoyable, » dit Elaïda, glaciale. « Tu ne réussiras jamais l'épreuve à ce rythme-là, mais tu dois y arriver, mon enfant, parce que je le désire. Et tu le feras, si tu ne veux pas que je te fasse écorcher vive avant de te renvoyer chez toi. Quant à vous deux, si c'est comme ça que vous l'aidez, vous faites de bien piètres amis. À l'époque où j'étais encore une acceptée, on savait ce que voulait dire le mot « entraînement ».
Elaïda fit signe à Siouan et Mireille de s'écarter, puis elle vint prendre leur place devant la table.
« Suivez bien cette petite démonstration. Recommence, Moiraine. »
La jeune femme tourna le dos à la sœur rouge. Mireille lui sourit, et Siouan l'encouragea d'un hochement de tête. Mais elle vit bien leur inquiétude. Qu'allait donc faire Elaïda? Pour le savoir, il n'y avait qu'un moyen, se jeter à l'eau. Dès qu'elle se fut unie au pouvoir, des éclairs zébrèrent l'air devant elle, faisant danser des points noirs et argentés dans son champ de vision. Des sifflements aigus et des roulements de tonnerre lui martyrisèrent les tympans, et une pluie de coups de badine et de ceinture s'abattit sur toutes les parties sensibles de son corps. Et tout du long, Elaïda la taquina de la voix, comme si tout ça n'était qu'un jeu.
« Plus vite, mon enfant! Tu dois être plus rapide! Chaque tissage doit être terminé pratiquement dans la fraction de seconde où tu le commences! Allons, plus vite! Plus vite !»
S'accrochant de toutes ses griffes à ce qui aurait dû être sa sérénité, Moiraine atteignit à peine le 12e tissage, puis sa concentration vola en éclats. Elle perdit le flux en cours et se déconnecta du Saïdar. Désorientée, Moiraine tenta de chasser les points brillants qui dansaient devant ses yeux. Sans grand succès, hélas. En revanche, elle parvint à contenir ses larmes. Tout son corps lui faisait mal, comme s'il n'était plus qu'une contusion géante. Dans ses oreilles, un clocher sonnait inlassablement le tocsin.
« Merci, Aes Sedai, »
dit Siouan, un peu trop empressé pour être honnête.
« Maintenant, nous comprenons ce qu'il faut faire. »
Mireille serrait convulsivement le devant de sa robe. Blanche comme un linge, elle écarquillait les yeux d'horreur.
« Recommence, »
dit simplement Elaïda. Moiraine dut mobiliser toute sa volonté pour obéir, et cette fois, elle craqua au 9e tissage.
« Encore !»
lança Elaïda. À la 3e tentative, Moiraine s'arrêta à 6 tissages, et à 3 lors de l'essai suivant. Le visage ruisselant de sueur, elle ne prêtait presque plus attention aux éclairs et au vacarme. Les coups, en revanche, un déluge de frappes vicieuses et un flot continu de douleurs. À la 5e tentative, Moiraine tomba à genoux
et éclata en sanglots. La séance de torture cessa aussitôt. Mais elle s'en aperçut à peine, se roula en boule sur le tapis et continua à pleurer, comme si elle n'avait plus l'intention d'arrêter. Par la lumière, elle n'avait jamais eu mal ainsi. Jamais. Elle ne remarqua pas que Siouan s'agenouillait à côté d'elle et sursauta lorsqu'elle entendit sa voix.
« Tu peux te relever, Moiraine ?»
Puisant dans des réserves qu'elle ignorait avoir jusque-là, Moiraine se força à ne plus sangloter. Puis elle se redressa tant bien que mal. Ses muscles torturés refusèrent de coopérer, et les contraindre à bouger lui valut des souffrances comme elle n'en avait jamais connues.
« Allons, ne faites pas cette tête !»
railla Elaïda.
« Elle n'en mourra pas !» Un peu d'inconfort l'aidera à assimiler la leçon. « Mon enfant, tu dois être rapide. Bien, je reviendrai demain matin pour la soigner. Je m'occuperai aussi de toi, Siouan. Dès que tu auras mis ton ami au lit, ce sera à ton tour de t'entraîner. »
Siouan blêmit, mais quand une Aes Sedai donnait un ordre, on ne discutait pas. Moiraine aurait préféré ne pas regarder, mais son ami avait dû assister à sa propre séance, et elle lui devait de garder les yeux ouverts. Comme elle le prévoyait, ce spectacle la fit de nouveau fondre en larmes. Presque toujours, lorsqu'elles s'entraînaient ensemble, Siouan réalisait les sentissages, quoique son ami ait imaginé pour l'en empêcher. Et quand elle craquait, ce n'était jamais avant d'avoir fait les deux tiers au moins de l'exercice. Sous les assauts de Laïda, elle fit la première fois 20 tissages, 17 la deuxième et seulement 14 la troisième. Blanche comme une morte, le front ruisselant de sueur, la coriace fille de pêcheur respirait comme si elle venait de courir une lieue sans s'arrêter. Mais elle ne versa pas une larme et mit un point d'honneur à ne pas marquer la moindre pause entre deux séquences. À la quatrième, elle compléta 12 tissages. Et 12 encore lors des deux essais suivants. Elle allait entamer la septième séance quand Elaïda intervint enfin.
« Suffit pour ce soir !»
dit-elle, d'un ton dépourvu de compassion. L'aura du Saïdar disparut et Siouan se tourna vers la sœur rouge, le visage de marbre, comme si rien ne s'était passé.
« Même si vous finissiez la séquence, vous ne seriez pas reçu en l'état actuel des choses. Il n'y a pas un seul lambeau de sérénité en vous. »
Elaïda dévisagea tour à tour Siouan et Moiraine.
« Souvenez-vous, il faut vous montrer sereine, quoi qu'on vous fasse. Et restez rapide. La lenteur vous fera échouer aussi sûrement qu'un accès de panique. Demain soir, nous verrons si vous avez une grosse marge de progression. »
Siouan attendit que la sœur rouge soit partie, puis elle lâcha la bonde à sa détresse. Tombant à genoux, elle versa toutes les larmes de son corps. Moiraine sauta du lit. Enfin, elle essaya. Mais le résultat, pathétique, fut plutôt qu'elle en glissa péniblement. Du coup, Mireille atteignit Siouan avant elle. S'enlaçant, les trois jeunes femmes pleurèrent ensemble. Après un très long moment, Mireille s'écarta, se sécha les joues du revers de la main et souffla.
« Attendez ici !»
Comme si les victimes d'Elaïda avaient été en état de faire autrement. Mireille revint très vite avec un gros pot vernissé entre les mains. En chemin, elle avait recruté Sheryam et Elide, qui l'aidèrent à déshabiller leurs deux amis et à appliquer de l'onguent sur leurs contusions et leurs plaies.
« Ce n'est pas juste !»
s'écria Elide, lorsqu'elle découvrit les stigmates infligés à ses camarades par la sœur rouge. Sheryam et Mireille l'approuvèrent du chef.
« La loi interdit d'utiliser ainsi le pouvoir sur une initiée. »«
Vraiment ?»
gémit Siouan.
« Combien de fois as-tu récolté une marque sur le postérieur parce qu'une sœur voulait te donner une petite leçon ?»
Aïe ! Bon sang ! Inutile de faire pénétrer l'onguent jusqu'à l'os ! Désolé,
souffla Elide.
Je vais essayer d'être plus douce.
La vanité était un péché capital. Dommage, car c'était le seul véritable défaut d'Elide. Et à cause de ça, il était difficile de l'aimer vraiment.
Vous devriez vous plaindre. En fait, il faudrait que nous allions tous voir Méréa en délégation. Non,
gémit Moiraine. Au début, l'onguent brûlait plus encore que les horions. Mais ça s'améliorait un peu ensuite.
Non, parce que Elaïda essaie de nous aider en réalité. Elle veut que nous réussissions, elle l'a dit clairement.
Siouan regarda son ami comme s'il venait de lui pousser des plumes.
Je ne me souviens pas de l'avoir entendu dire ça. D'après moi, elle essaie de saboter tous nos efforts.
De toute façon,
reprit Moiraine,
qui nous écouterait? Hé, attention!
Sheryam s'excusa humblement. Mais ça ne dissipa pas la brûlure. A-t-on un exemple d'accepter qu'il se soit plainte un jour, sans en payer le prix ?
Les trois autres jeunes femmes furent contraintes d'approuver du chef. À contre-cœur, certes, mais sans avoir le choix. Les novices qui venaient se plaindre avaient droit à un discours ferme mais bienveillant sur la réalité du monde et ce qu'elle impliquait. Les acceptés ne bénéficiaient pas de tant d'indulgence. Autant que l'histoire du pouvoir de l'unique, elles étaient censées apprendre à ne plus pleurnicher comme des gamines.
« Elle décidera peut-être de vous ficher la paix, »
avança Shyriam, sans y croire. Ça se voyait sur son visage. Lorsque les trois jeunes femmes partirent, elles laissèrent le pot d'onguent dans la chambre. L'épouvantable infusion de Vérine aida Siouan et Moiraine à s'endormir, serrées l'une contre l'autre dans le lit étroit. Au moins autant que leur contusion, la sombre présence du pot d'onguent, souvenir de mille tourments, leur valut un sommeil agité et peu réparateur. Fidèle à sa parole, Elaïda déboula dans la chambre peu avant l'aube et leur fit subir une intense séance de guérison. Subir était le bon verbe, car il n'y avait pas une once de compassion dans sa démarche. Prenant distraitement entre ses mains la tête de chaque jeune femme, elle fit ce qu'elle avait à faire en silence et sans douceur. Lorsque le flux d'esprit, d'air et d'eau la toucha, Moiraine cria de douleur et trembla de tous ses membres. Un moment, elle eut le sentiment qu'on l'avait plongée dans de l'eau glacée, mais lorsque cela passa, il ne restait rien de ces bleus divers et variés. Malheureusement, Elaïda lui en refit la nuit même et celle d'après. La première fois, Moiraine craqua après 7 tentatives. Le lendemain, elle résista à 10. Siouan, elle, arriva d'abord jusqu'à 10, puis résista à 12 essais consécutifs. Comme le premier soir, elle ne versa pas une larme avant le départ d'Elaïda. Shyriam, Mirel et Elide devaient monter la garde, car chaque nuit, après le départ de la Sœur Rouge, elles venaient rejoindre leurs amis pour les consoler, les déshabiller et appliquer de l'onguent sur leurs blessures. Elide lança quelques plaisanteries pour détendre l'atmosphère, mais personne n'était d'humeur à rire. Moiraine commença à se demander si le pot d'onguent suffirait. Avait-elle mal compris ? Et Elaïda pouvait-elle vouloir saboter leur ultime épreuve, comme le pensait Siouan ? Le ventre en permanence noué par l'angoisse, la jeune femme redoutait d'être contrainte, un jour ou l'autre, d'implorer Elaïda d'arrêter. Mais la sœur refuserait. Elle n'avait pas le moindre doute à ce sujet. Et ça lui donnait envie de pleurer. Au matin de la troisième nuit, ce fut Méréan qui vint réveiller les deux jeunes femmes et s'occupa de leurs blessures.
« Elle ne vous infligera plus ça, »
dit-elle lorsqu'elle eut terminé.
« Comment avez-vous découvert ce qui se passait ?»
demanda Moiraine. S'asseyant dans le lit, elle enfila à la hâte sa chemise de nuit. La potion de Vérine abrutissant les deux acceptés, le feu était mort de sa belle mort pendant la nuit, et il faisait un froid de gueux dans la chambre. S'emparant de ses bas, posés sur le dossier d'une chaise, elle entreprit de les passer aussi. Le sol était peut-être un peu moins froid que les jours précédents, une preuve que le temps s'améliorait, mais pas au point qu'il soit agréable de marcher pieds nus.
« J'ai mes petits secrets, tu devrais le savoir, »
répondit la maîtresse des novices, énigmatique. Moiraine aurait parié que Shyriam, Mirel ou Elide y étaient pour quelque chose, voire les trois. Mais en digne à Aes Sedai, Méréan ne répondait jamais clairement lorsqu'il était possible de faire autrement.
« Quoi qu'il en soit, Elaïda est passée très près de recevoir une punition. Et je l'ai informé que j'aurais demandé à notre mère que ce soit une mortification de la chair. À toute fin utile, je lui ai rappelé que les châtiments que j'inflige aux sœurs sont beaucoup plus durs que les punitions réservées aux novices et aux acceptés. Elle a trouvé mon exposé convaincant.
« Pourquoi n'est-elle pas punie pour ce qu'elle nous a fait ?»
demanda Siouan, qui était déjà en train de boutonner sa robe. Méréan n'aima visiblement pas qu'une acceptée lui parle d'égal à égal, mais elle ne releva pas. Sans doute parce que les deux jeunes femmes méritaient un peu d'indulgence, après ce qu'elles avaient traversé.
« Si elle avait utilisé le Saïdar pour vous punir ou vous forcer à lui obéir, je l'aurais fait attacher au chevalet, afin qu'elle reçoive le fouet. Mais elle n'a violé aucune loi. »
Méréan eut un sourire espiègle, et ses yeux pétillèrent de malice.
« Je ne devrais sans doute pas vous le dire, mais elle aurait été punie pour vous avoir aidé à tricher durant l'épreuve finale. Une simple question pratique l'a sauvée. Était-ce vraiment de la triche ? Je suis sûr que vous accepterez son présent dans l'esprit où elle vous l'a fait. Après tout, lors de notre entretien, elle a payé un certain prix en humiliation.
« Aes Sedai, c'est un cadeau que je n'oublierai jamais, »
grogna Siouan. Il n'y avait pas besoin d'un dessin pour comprendre ce qu'elle voulait dire. Méréan soupira et secoua la tête, mais elle n'ajouta rien. La main glacée qui serrait les entrailles de Moiraine la laissait en paix depuis qu'elle savait qu'il n'y aurait plus de leçons avec Elaïda.
En un clin d'œil, elle se referma deux fois plus violemment sur le ventre de la jeune femme. Et Laïda les avait aidés à tricher? Enfin, presque. Leur avait-elle donné un avant-goût de ce que serait la véritable épreuve? Eh bien, si ça consistait à se faire battre à mort... Pas la lumière. Comment supporter une horreur pareille? Cela dit, toutes les Aes Sedai l'avaient subie, et elle n'en était pas morte pour autant. Elle ferait comme les autres. Il le faudrait bien. À partir de là, Moiraine demanda à Siouan et Mirel de se montrer beaucoup plus dure avec elle. Ses deux amies s'y efforcèrent, allant parfois jusqu'à la faire pleurer. Mais elles refusèrent d'égaler Elaïda dans la cruauté. Même ainsi, Moiraine continua à échouer presque tout le temps. Chaque jour, la pression de la main glacée devint un peu plus forte. Deux jours après la merveilleuse intervention de Méréane, les deux amies croisèrent Elaïda sur le chemin du réfectoire, aux alentours de midi. En les voyant, la sœur rouge s'immobilisa à côté d'une lampe sur pied, et elle ne desserra pas les dents tandis que les deux acceptés lui faisaient la révérence. Toujours muette, elle les suivit du regard tandis qu'elle s'éloignait. Si son visage de marbre imitait à la perfection la sérénité, ses yeux lançaient des éclairs. Moiraine en fut accablée. À l'évidence, Elaïda pensa qu'elles étaient allées la dénoncer à la maîtresse des novices. Et selon Méréane, elle avait payé un certain prix en humiliation. Si on songeait aux différentes manières dont la menace d'une punition avait pu être utilisée pour faire rendre gorge à Elaïda, aucune n'était susceptible de lui épargner son pesant de honte. Une seule question se posait. Jusqu'où était allée Méréane? Avec sa façon de considérer les novices et les accepter comme ses poussins, elle avait dû être fort courroucée. Le résultat n'avait rien à voir avec le genre d'inimitié qui finit par disparaître avec le temps. Dans les yeux de la sœur rouge, Moiraine avait bel et bien reconnu de la haine. Siouan et elle s'étaient fait une ennemie pour la vie. Lorsque Moiraine l'en informa, la fille de pêcheur s'autorisa un ricanement rauque.
« Ai-je jamais voulu devenir son amie? Je t'en donne ma parole. Quand j'aurai obtenu le châle, si elle s'en prend encore à moi, elle le regrettera. Voyons, les Aes Sedai ne se battent pas comme des marchandes de poissons. »
Siouan ne sembla pas être ébranlé par cet argument. 8 jours après la mort de Jitara, le temps s'adoucit sans crier gare. Dans un ciel sans nuages, le soleil brilla intensément, comme par une journée de printemps encore un peu fraîche. Au crépuscule, presque toute la neige avait fondu. Il en allait de même sur le pic du dragon, sauf au sommet. Autour du pic, la terre était plus chaude qu'ailleurs, et la fonte commençait toujours par là. Ainsi, le cadre temporel était délimité. Puisqu'il gisait dans la neige, le garçon devait être né dans les 10 derniers jours. À partir de ce moment-là, le nombre de bébés correspondant aux critères diminua chaque jour un peu plus. Puis 5 jours passèrent, sans que les deux copistes aient ajouté un nom dans leur petit carnet secret. Avec un peu de chance, ça signifiait que le grand recensement était terminé. 9 jours après le dégel, alors que l'aube se levait à peine, Méréane entra dans la galerie au moment où Moiraine et Siouan la remontaient pour gagner le réfectoire. Contrairement à ses habitudes, la maîtresse des novices portait son châle.
« Moiraine, dame Audred, » dit-elle d'un ton solennel, « tu es convoquée afin de passer l'épreuve finale qui fera de toi une Aes Sedai. Puisse la lumière veiller sur toi et te guider. »